Chapitre 27. Nevea se gara au pied d'un grand écriteau en bois portant l'inscription « Résidence pour seniors, comté de Warren ». En constatant que les deux R de Warren avaient disparu, elle se demanda s'ils étaient tombés tout seuls ou si c'était l'œuvre d'ado rebelle qui s'était lancé un défi stupide. Elle descendit de son pick-up et traversa le parking gravillonné. La maison de retraite consistait en une série de petits studios, dont la porte donnait sur l'extérieur, un peu comme dans un motel premier prix. « Et en la matière, je m'y connais », songea Nevea. « Merci pour ta classe, Chauncey. » Elle remonta une allée au revêtement fissuré qui longeait un massif de fleurs délimité par une bordure en demi-rondin. Le gel précoce avait tué la plupart des plantes, à l'exception de quelques pensées qui refusaient obstinément de faner. Elle s'arrêta devant la porte 6E et frappa.
« Un instant !» fit une voix grave,
et Nevea entendit qu'on baissait le volume de la télévision. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit sur un homme noir d'un certain âge, des cheveux gris hirsutes, une barbe broussailleuse de la même teinte.
« Lawrence ? Je m'appelle Nevea Carruthers. C'est moi qui vous ai téléphoné tout à l'heure. »«
Oui, oui, entrez. »
Elle pénétra dans le modeste intérieur. Lawrence lui désigna un petit canapé élimé avant de se laisser tomber sur un fauteuil inclinable qui avait connu des jours meilleurs. La télévision diffusait un épisode du Juste Prix. Devant le fauteuil était dépliée une table d'appoint sur laquelle était posée une assiette remplie de pommes noisettes et de bâtonnets de poisson pané.
« Je vous proposerais bien quelque chose à boire, mais j'ai que de la bière tiède et de la limonade sans sucre »,
annonça le vieillard.
« Ne vous embêtez pas, j'ai pas soif. »
Lawrence eut le hochement de tête satisfait de celui qui a obtenu la réponse qu'il espérait. Soudain, des cris et des rires étouffés s'échappèrent de la télévision alors qu'un jeune homme faisait la roue après avoir deviné le prix exact d'une boîte de pop-corn pour micro-ondes. Nevea regarda l'heureux candidat s'installer au volant d'une Ford Focus flambant neuve.
« Le pop-corn doit coûter plus cher en Californie »,
commenta Lawrence.
« Moi, j'aurais parié sur $3.99. »
Nevea esquissa un sourire.
« J'imagine que vous voulez me poser des questions sur votre maman. »
« Pour tout vous avouer, c'est de mon père que j'aimerais que vous me parliez », dit Nevea.
Et Lawrence fronça les sourcils.
Je l'ai vu qu'une seule fois, cette fameuse fois, et on n'a pas eu l'occasion de discuter.
Combien de temps a duré votre histoire avec ma mère ?
Lawrence soupira.
On peut pas vraiment parler d'histoire. Ce soir-là, c'était la première fois qu'on faisait autre chose que discuter. Votre mère était une femme géniale, tellement drôle et attentionnée. Il nous arrivait de déjeuner ensemble, mais ça n'avait rien à voir avec des rancards. On s'appréciait, c'est tout. Je l'ai jamais considérée comme autre chose qu'une amie. Évidemment que je la trouvais très belle, je suis pas aveugle, mais j'avais une copine. Non, j'aimais bien passer du temps avec elle. Et puis, alors qu'on était dans la voiture, elle s'est mise à pleurer. Mais tout ça, je l'ai déjà raconté à la police.
Certaines de vos collègues soupçonnent que vous entreteniez une liaison.
Des vieilles biques qui étaient jalouses de votre mère. Mais non, je vous assure que ce soir-là, c'était la première fois qu'on... Enfin, vous savez, elle était si triste. Elle m'a avoué que votre père ne l'aimait plus. Il l'appréciait, mais il ne... Vous êtes sûr que vous avez envie d'entendre ça ?
Oui,
acquiesça Nevea, en s'efforçant d'avoir l'air convaincu.
Bon, elle m'a confié qu'il ne faisait plus l'amour. Votre père ne pensait qu'à son crématorium. Bonita comprenait, il voulait mettre sa famille à l'abri du besoin, mais...
Lawrence marqua une pause. Et Nevea devina qu'il se replongeait dans le passé.
Je me rappelle pas les mots exacts qu'elle a employés, mais elle se demandait à quoi ressemblerait le reste de leur vie si Kiss éprouvait plus d'amour pour son crématorium que pour elle. Et ensuite, elle s'est mise à pleurer, à gros sanglots. Moi, je voulais juste la consoler, alors je l'ai prise dans mes bras. J'ai retiré le sachet de beignets d'oignons qu'elle avait sur les genoux et je l'ai prise dans mes bras. Quelques secondes après, on s'embrassait, et votre père se tenait à quelques pas de la voiture. De toute ma vie, j'ai jamais vu un homme qui avait l'air aussi dévasté. Alors je sais pas s'il était obsédé par son crématorium, mais il était évident à cet instant qu'il aimait votre mère, et qu'il avait le cœur brisé.
Nevea se prépara mentalement à poser la question suivante.
Et vous croyez qu'il était assez dévasté pour vouloir s'en prendre à elle ?
Lorenz sembla se liquéfier dans son fauteuil.
Ça fait 20 ans que je me le demande, répondit-il. 20 ans que je me demande ce que j'aurais fait si j'avais accès à un crématorium et que j'avais trouvé ma femme dans les bras d'un autre homme.
Lorenz laissa passer quelques secondes avant de reprendre.
C'est surtout l'expression sur le visage de votre père qui m'a marqué. S'il m'avait sorti son ménagement de la voiture pour m'en coller une, ça ne m'aurait pas plu, mais j'aurais compris. Là, il s'est contenté de nous observer sans prononcer le moindre mot. Je vais être honnête avec vous, ses yeux étaient terrifiants. Votre mère avait retiré son alliance au moment où on... Enfin, vous savez, celle avec le diamant en forme de cœur. Mais dès qu'elle a vu votre père, elle l'a regardé droit dans les yeux et elle l'a remise. J'avais encore jamais vu deux personnes qui avaient l'air de s'aimer tout en se détestant. C'était tellement étrange. Il l'observait. C'était comme si j'étais pas là. Ce qui me convenait très bien, soit dit en passant. L'espace de quelques instants, j'ai cru qu'il allait soit dégainer une arme et ouvrir le feu, soit fondre en larmes.
Lorenz soupira en tirant sur sa barbe.
Soit les deux, ajouta-t-il. Quand j'ai appris que votre mère avait disparu, j'ai tout de suite pensé qu'il l'avait tuée. Cette expression sur son visage. Et ensuite, je me suis dit que peut-être elle s'était enfuie. Pas pour échapper à ses enfants, mais pour échapper à sa propre vie. Je peux pas imaginer ce que ça fait d'être avec quelqu'un pour qui on éprouve de l'amour, mais dont on n'est plus amoureux.
Vous faites référence à mon père ou à ma mère ?
Lorenz réprima un bâillement.
Les deux, peut-être. Qu'est-ce que j'en sais après tout ? Je suis qu'un vieillard.
Nevea remercia Lorenz d'avoir pris le temps de répondre à ses questions et regagna son pick-up. Il n'y avait plus personne à qui parler à part son père, et si elle en croyait l'avis des médecins, cette conversation n'était pas prête de se produire, si tant est qu'elle se produise un jour. Elle démarra. Son instinct lui soufflait que leur père avait quelque chose à voir avec ce qui était arrivé à leur mère. Mais pouvait-il s'agir d'un biais de confirmation ? Est-ce que Nevea voulait que ce soit le cas afin d'avoir enfin une réponse ? Ou est-ce que leur père avait vraiment immolé sa mère sur un bûcher funéraire d'acier et de propane ? Tout le monde lui assurait que Keith Carruthers aimait Bonita. Mais ça ne signifiait pas qu'il était innocent. Nevea n'arrêtait pas de revoir l'image de la voiture abandonnée devant le passage à niveau. Elle n'arrêtait pas de repenser à ce que lui avait confié Lorenz à propos de l'expression sur le visage de son père. Cette expression était-elle la dernière chose qu'avait vue sa mère ? Si Keith Carruthers était coupable, il ne subirait d'autre châtiment que celui d'être allongé sur un lit d'hôpital, incapable de bouger ou de parler jusqu'à sa mort. La police ne comptait pas l'interpeller, et Roman et Dante étaient convaincus de son innocence. Bref, Nevea avait le sentiment d'être Don Quichotte, s'apprêtant à affronter un moulin à vent.
Putain, mais qu'est-ce que t'es en train de faire de ta vie ?
Soupira-t-elle. Et comme il n'y avait personne pour lui répondre, elle s'en chargea elle-même.
Je sais pas, mais ça te rend pas heureuse.
Assis devant l'antique ordinateur de son père dans les bureaux du crématorium, Roman essayait de retrouver la trace de l'associé de l'île Glock, dans l'espoir assez vain que son client puisse récupérer ses 4 millions de dollars. Il avait pris contact avec une société d'investigation en ligne composée d'anciens hackers qui, moyennant une somme assez considérable, acceptait de contourner les règles de la protection de la vie privée sur Internet pour découvrir à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur n'importe qui. Ces hackers s'efforçaient depuis quelques heures de traquer l'ami de Lil Glock en épluchant ses données téléphoniques, ses transactions bancaires, ses achats en ligne et même les endroits où il s'était connecté à son service de streaming musical. Hélas, si l'argent avait déjà été converti en Bitcoin, il n'y aurait pas moyen de le récupérer légalement, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait personne vers qui se tourner. En effet, les crypto-monnaies n'étaient réglementées par aucune agence, qu'elle soit gouvernementale ou indépendante. Après, il existait d'autres solutions pour forcer l'ami de Lil Glock à rendre l'argent. Khalil connaissait des gens qui pouvaient se montrer très convaincants avec un chalumeau, un marteau ou un pistolet à clous. Roman croisa son reflet dans l'écran de l'ordinateur. Aurait-il ne serait-ce qu'envisagé ce genre de méthode un mois plus tôt? Il n'était pas naïf. Il était parfaitement conscient qu'à défaut d'en avoir été témoin, il avait déjà été complice de plusieurs interrogatoires musclés. Ses clients n'étaient pas tous des rappeurs qui se rêvaient gangsters. Ce n'étaient pas non plus des assassins comme Torrent et Tranquille. Non, il s'agissait pour la plupart de voyous en col blanc qui n'avaient aucun problème à prendre de telles décisions. Roman, lui, n'avait jamais été le donneur d'ordre. Il s'était toujours tenu à l'écart. D'une manière générale, il ne s'était pas trop sali les mains, même s'il savait que derrière chaque grand empire se cachait un crime encore plus grand. Désormais, il n'était plus celui qui nettoyait après les autres, mais celui après qui il fallait nettoyer. La sonnette retentit. Avant qu'il ait pu se lever, elle résonna à nouveau. Et le temps qu'il atteigne la porte, la personne semblait s'être carrément endormie sur le bouton. Il n'y avait pourtant aucune livraison de prévu pour aujourd'hui, à moins que Nevea ait oublié de le prévenir. Ce matin, il l'avait trouvé préoccupé lorsqu'elle lui avait annoncé qu'elle avait une course à faire. Roman approcha son œil du Judas. « Qu'est-ce qui me veut encore, ce connard ?» songea-t-il. Il hésita à retourner à son ordinateur avant de se raviser. Le meilleur moyen de se débarrasser de ce gêneur une bonne fois pour toutes, c'était de crever l'abcès. « Que puis-je faire pour vous, inspecteur Mansfield ?» demanda-t-il. Chauncey pénétra dans le crématorium sans prononcer le moindre mot. Roman lui trouva l'air fatigué et déconfit. Des joues mal rasées, des yeux injectés de sang enfoncés dans leur orbite, des vêtements froissés qui s'accrochaient à ses épaules comme à la structure d'un épouvantail.
« Je crois qu'il faut qu'on parle », déclara le policier.
Roman resta planté dans l'entrée, les mains le long du corps. Il ne pensait pas que Chauncey était là pour l'arrêter. En tout cas, il n'avait pas l'air d'être venu dans cette optique. En plus, il était seul. S'il avait eu l'intention de lui passer les menottes, il aurait eu un collègue avec lui.
« Qu'on parle de quoi, au juste ?» rétorqua Roman. « Je ne veux pas être mal poli, mais il me semble qu'on n'a rien à se dire. À moins que vous souhaitiez discuter de la pluie et du beau temps. »
Chauncey eut un ricanement cynique. On aurait dit des os s'entrechoquant dans un cercueil.
Je constate qu'il n'y a pas que votre sœur qui est insolente dans la famille. D'ailleurs, figurez-vous que...
Si vous avez l'intention de dire quoi que ce soit de désobligeant à l'égard de ma sœur, je vous arrête tout de suite.
Roman n'avait pas levé la voix, mais il y avait dans son ton un aplomb qui sembla déstabiliser le policier.
De toute façon, je suis pas là pour parler d'elle, cracha Chauncey.
Roman se demanda si sa femme l'avait mis dehors, car il avait l'air d'avoir passé la nuit dans sa voiture.
« Si je suis venu vous voir, c'est pour ça !» ajouta l'inspecteur, en sortant de la poche intérieure de sa veste une enveloppe en papier kraft qu'il tendit à Roman.
« Si ce n'est pas un mandat, ça ne m'intéresse pas. Croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. »
Roman prit l'enveloppe, l'ouvrit et constata qu'elle contenait plusieurs photos. Il les sortit et les passa rapidement en revue. Il y avait des clichés de lui au volant de la Challenger, de lui au Kingdom en compagnie de Torrent, Tranquille et leurs hommes, de lui quittant l'appartement de Jay. Il y en avait aussi de Dante, mais la plupart le montraient sortant d'un mobilhome miteux ou du Cooper's Rest, l'autre bar populaire de la ville, dans un état d'ébriété plus ou moins avancé. Enfin, les dernières photos étaient de Nevea. Ce furent ces dernières qui firent voir rouge à Roman. Mais il s'efforça de n'en rien laisser paraître. Il remit les images dans l'enveloppe pour les rendre à Chauncey, qui leva la main pour refuser.
« Non, gardez-les, j'ai plein de copies. »
Roman jeta l'enveloppe sur la table basse qui trônait au centre de la salle d'attente et attendit que le policier lui explique ce qu'il lui voulait. Car il était certain que quand Chauncey rouvrira la bouche, ce serait soit pour se plaindre, soit pour lui demander quelque chose.
Ça fait 12 ans que je fais ce métier. Pour un flic comme moi, ces photos racontent une histoire. Vous voulez que je vous la déroule?
J'ai l'impression que quoi que je dise, je ne pourrai pas y couper. Alors allez-y.
Très bien. Cette histoire, c'est celle d'un petit malin qui sait y faire avec le pognon et qui rentre à la maison parce que son père a fait un bisou à un train et qui s'est retrouvé locataire permanent du rayon légumes de l'hôpital. Une fois de retour au bercail, le petit malin se rend compte que son frangin dégénéré s'est mis à dos une paire de gangsters bien énervés. Et puis, à un moment, il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. De très grave, même, vu que le meilleur ami du frangin dégénéré et sa nana disparaissent sans laisser d'adresse. Mais quelques jours plus tard, qui sait qu'on voit traîner avec les gangsters énervés, faire la fête avec leurs salopes de demi-sœurs et livrer des valises de bifton? Le petit malin! Et pourquoi? Parce qu'il a passé un accord avec eux pour ne pas qu'ils enculent le frangin dégénéré avec le canon d'un calibre 45, bien sûr! Alors, je suis loin du compte? Comme vous dites, c'est une histoire. D'ailleurs, vous devriez l'écrire et la proposer à une maison d'édition. Vous êtes de mèche avec les Bibibi. Nous savons que votre frère a des liens avec eux. Un indique et sa nana ont disparu. Savion Graham, un homme de main des Bibibi plus connu sous le nom de Yellow Boy, n'a plus donné signe de vie depuis une semaine. La mère de son gosse nous a appelés en panique pour nous dire qu'il était sorti avec des copains et qu'il n'était pas rentré à la maison. Depuis que vous êtes dans le coin, Jefferson Run ressemble à Kaboul un jour d'attentat. Je sais que vous êtes dans la merde jusqu'au cou et que vous continuez à vous enfoncer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mon histoire maintenant ? Et Chauncey appuya son index sur le torse de Roman pour étayer son propos. Je ne suis ni flic ni avocat, mais je pense que vous devriez retirer votre doigt si vous ne voulez pas que j'appelle vos collègues et que je porte plainte contre vous pour agression, rétorqua Roman. Et le policier s'exécuta avec un petit rire moqueur. Vous vous rendez pas compte de la situation? Ou peut-être que si? Et que vous faites dans votre froc? Les Bibibi ne vous lâcheront jamais. Terence Gilchrist et son psychopathe de frangin sont dans la partie depuis la maternelle. Terence a commis son premier meurtre à 16 ans, mais il a été acquitté parce que le témoin principal a été retrouvé éventré au bord d'une rivière, avec une poignée de cafards dans la bouche. Quant à Tracy, il pourrait officiellement être considéré comme un tueur en série. Bref, vous êtes une sardine qui nage au milieu des mégalodons. J'ignore dans quelles circonstances exactes vous vous êtes associé à ces deux cinglés, mais je suis sûr que vous savez que ça peut se terminer que de deux façons pour vous. Soit derrière les barreaux, soit au fond d'un fossé avec deux balles dans la nuque. Quand ces mecs vous auront sucé jusqu'à l'os, ils prendront aucun risque et ils se débarrasseront de vous. Ou alors peut-être qu'un soir, alors que vous sortirez du club avec les frères Gilchrist, vous vous prendrez une rafale de fusil automatique par des mecs du Ghost and Crew. Quoi qu'il en soit, la fin sera brutale. « Comme ça !» ajouta Chauncey, en tapant dans ses mains aussi fort que possible. « Sauf si vous acceptez la bouée de sauvetage que je vais vous envoyer, » poursuivit-il. « C'est une offre exceptionnelle, et je la proposerai pas deux fois, alors ouvrez bien vos oreilles. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore soupçonné officiellement de quoi que ce soit. » Mais ça peut vite changer. À ce moment-là, il ne me faudra pas longtemps avant d'obtenir un mandat. Je vous emmènerai au poste et je m'assurerai que tout le monde vous voit ressortir au bout de quelques heures, libre comme l'air. Surtout Tranquille et Torrent. Ils comprendront immédiatement que vous avez parlé et ils vous tueront tous les trois. En prenant tout leur temps. Vous mourrez en entendant les hurlements et les pleurs de Nevea. Vous êtes prêt pour la bouée de sauvetage maintenant ? Si vous me donnez, mettons, 25 000 $, je peux m'assurer que votre nom disparaisse à jamais de la liste des complices potentiels des Bibibi. J'étouffe toute velléité d'enquête. Et vous devenez mon nouvel indique. On vous met un micro et vous nous apportez des preuves des centaines d'infractions que Torrent et son gang de psychopathes ont probablement commises. J'irai même jusqu'à détourner les soupçons qu'il pourrait y avoir sur vous en faisant accuser un de leurs sous-fifres de les avoir balancés. Après ça, quand tout ce beau monde sera coffré, vous serez libre de reprendre votre petite vie de famille dysfonctionnelle avec Dante et Nevea. Roman hocha la tête. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez que je vous paie pour avoir l'honneur de devenir votre indique. Et ensuite que je vous laisse accuser quelqu'un d'autre d'être l'indique en question. Considérez ces 25 000 $ comme dédommagement après la tentative de sabotage de mon mariage par votre sœur. De toute façon, c'est soit ça, soit je vous arrête, je vous libère en grande pompe dans la foulée, et au cas où Torrent n'en aurait pas déduit que vous l'avez balancé, je vais lui expliquer moi-même. À vous de voir, Roman. Roman secoua la tête. J'arrive pas à croire que vous soyez aussi stupide. Je vais vous l'expliquer, moi, la situation.
Si vous m'avez vu traîner avec Torrent et Tranquille, c'est uniquement parce que je sors avec leur sœur. Quant à mon frangin, il aime faire la fête. Et il se trouve que les frères Gilchrist aussi. Nous savons tous les deux qui sont ces types et comment ils gagnent leur vie, mais ça ne veut pas dire que je suis lié à eux, ni que je cautionne leurs agissements. Jefferson Run a le statut de ville, mais c'est un village. Et comme dans la plupart des villages, tout le monde se connaît. C'est comme ça. Roman posa la main sur l'épaule de Chauncey. Mais parlons un peu de vous à présent. Vous n'avez pas l'air très en forme. Est-ce que votre femme vous a mis dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fini par apprendre que vous fréquentiez ma sœur? D'ailleurs, il ne faut pas en vouloir à Nevea. C'est vous qui êtes marié, pas elle. Alors, je me doute que ça ne va pas être évident pour vous, mais je veux que vous arrêtiez de parler de ma sœur, de mon frère ou de la femme que je fréquente. Il va sans dire que je ne vous paierai rien du tout. Par contre, je vais vous faire une fleur et ne pas porter plainte contre vous pour harcèlement. Mon père est ami avec le maire, et je suis sûr que celui-ci ne serait pas ravi d'apprendre que le fils d'un des membres les plus respectés de ce qui reste de la chambre de commerce de Jefferson Run se sent menacé. Donc, je vous suggère de retourner dans l'hôtel, le motel, le taudis ou le parking souterrain, où vous passez vos nuits, et de laisser ma famille tranquille. Roman tapota l'épaule de Chauncey et conclut. « Allez, passez une bonne journée. J'espère que vous avez un bon avocat, parce que vous allez en avoir besoin. J'ai une avocate, et elle est extraordinaire. Maintenant, je vais vous demander de partir. J'ai du travail et j'imagine que, de votre côté, vous devez trouver un endroit où prendre une douche. Allez vous faire foutre !» cracha le policier en glissant la main dans sa veste. « Je vous préviens, Chauncey, si vous sortez votre flingue, vous avez intérêt à pas me louper !» La rage qui imbibait cette dernière menace le surprit lui-même. Mais elle était pure, brute et absolument sincère. Roman en avait assez de cet homme, assez de sa condescendance et de sa suffisance, assez de ses menaces, de sa misogynie et de sa grossièreté, assez de le voir brandir son badge comme une matraque. Mais surtout, il en avait assez de le voir manquer de respect à Nevea. Alors si Chauncey voulait en découdre, Roman l'attendait de pied ferme. Le policier dut lire tout cela dans les yeux et sur le visage de cet homme qui se tenait à moins d'un mètre de lui. Peut-être qu'il avait déjà eu l'occasion de croiser un tel regard et qu'il savait comment l'histoire se terminait. « Est-ce que vous avez l'intention de résister si je vous arrête ?» le défia Chauncey. « Il n'y a qu'un moyen de le savoir. » C'était culotté de dire ça à un policier, mais Roman avait cessé de le considérer comme tel dès l'instant où Chauncey avait tenté de lui extorquer de l'argent. Désormais, il le voyait comme un problème à résoudre. Restait à déterminer la meilleure solution. Chauncey retira sa main de l'intérieur de sa veste. « Je peux pas récupérer mon pognon si vous butez, » lâcha-t-il. « Et puis, ça ferait trop de paperasse. « Je vais vous laisser quelques jours pour réfléchir à ma proposition. Peut-être que quand vous serez calmé, vous vous rendrez compte que c'est votre seule option. À bientôt, Roman. » Et il se dirigea vers la porte. Roman le regarda partir. Quand il entendit le moteur démarrer à l'extérieur, il appela aussitôt Khalil.
« Pax Romana ?»
dit son ami en décrochant. « On a un problème. »«
Ça tombe bien, c'est ma spécialité de les résoudre. »
Celui-ci s'annonce un peu plus coriace que d'habitude.
D'accord. Je m'occupe de l'autre truc ce soir, et ensuite on en discutera.
À ce propos, qu'est-ce que tu comptes faire des objets que tu vas te procurer ? Demanda Roman.
Je pensais les déposer en plein territoire du Ghost Town Crew. Il serait temps que ces mecs se mettent un peu à la page. Les machettes, c'est dépassé.